Il est 17h, chers HDRiens, chers HDRiennes, chers amis de Gramont, chers amis de Principe Actif à Évreux et dans le sud de l'Eure, chers auditeurs en règle générale, bonsoir, c'est l'heure de votre Blabla Mix, le Blabla Mix du jeudi, avec ce soir au menu un petit agenda, le traditionnel. Ensuite, on retrouvera bien sûr la chronique de Mansour qui continue à vous raconter les mésaventures du roi Hassan II qui fait face à un certain nombre de coups d'État. Et puis ensuite, on retrouvera bien sûr notre invitée, Madame Mélanie Hamon, qui nous vient tout droit de la médiathèque du Châtelet, de la bibliothèque du Châtelet, qui va venir cette fois nous présenter les animations qui arrivent là pour cette rentrée, la rentrée de la bibliothèque du Châtelet. Et puis évidemment, le Blabla Mix, vous le savez, c'est également de la musique. Alors je vous propose qu'on parte en musique avec Nancy Wilson, Ain't No Sunshine, une reprise de Bill Withers.
Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time when he's gone. Wonder if he's going to stay. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime he goes away. And I know. No sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime he goes away. Anytime he goes away.
Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM.
Ain't no sunshine, en effet, il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment sur les Hauts-de-Rouen, mais c'est pas grave, le soleil est dans la radio au 99.1. Bon, parlons un petit peu agenda, peut-être qu'il fera beau ce week-end et qu'on pourra faire des sorties sympathiques. En tout cas, bien sûr, sur les Hauts-de-Rouen, vous le savez, c'est un petit peu un événement de taille municipale, puisque ce samedi 14 septembre, de 14h à 18h, on a les Hauts ont du talent, les Hauts ont des talents, excusez-moi. Vous pourrez retrouver plein d'activités, des scènes ouvertes, évidemment, si vous avez du talent, vous êtes des Hauts-de-Rouen, vous avez envie de vous produire. Eh bien, c'est le moment pour vous. Il y aura des baby-foot géants, ça c'est très drôle, des fresques collectives également pour les talents un petit peu plus visuels et moins sonores, et des initiations sportives aussi pour les futurs athlètes, qui sait, des Hauts-de-Rouen, de la pétanque pour les gens comme moi qui sont moins sport et qui sont plus dans les sports tranquilles. Des contes aussi, des récits de contes, des conteurs qui viendront parler, des marionnettes aussi, que du bon. Et puis bien sûr à 14h, ça c'est le pinacle de cet événement, le maire monsieur Yvon Robert viendra inaugurer les silhouettes de la passerelle que vous connaissez déjà tous certainement, chers auditeurs, vous pouvez retrouver à côté de Châtelet. Et bien sûr le groupe Agogo Percussion, que les fidèles connaissent puisque nous les avons reçus l'an dernier, viendra mettre de la grosse ambiance brésilienne sur les Hauts-de-Rouen pour commencer le début de cet événement. Et puis bien sûr, on peut retrouver également ce week-end de 10h à 19h dans tout le centre-ville, le samedi et le dimanche, un événement traditionnel maintenant de Rouen, un événement qui marque, un événement que personne ne pourra manquer puisque c'est la grande braderie de Rouen. On pourra retrouver tout un tas de commerçants sur le trottoir qui viendront vous vendre des choses. Enfin, vous allez venir vers eux, bien sûr, pour leur acheter des choses. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est là. Et puis, ce qu'on peut également aimer ou ne pas aimer et qui sera là quand même, c'est la musique. Mais vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai choisi, c'est de la bonne. Je vous propose qu'avant de retrouver la chronique de Mansour, on parte s'écouter Kesta avec Danny Glover sur le mix des cultures.
J'ai grandi dans les 90, devant le club Dorothée. Pour ça que je suis comme Nicky Larson avec les filles à côté. Entre temps avec les potes on a voté. Consomme beaucoup se présentera, là on ira voter. Ça fait 15 ans, ouais, 15 ans que j'ai 15 ans dans ma tête. J'étais tranquille avant que les Beasties ne viennent tous saboter. J'ai connu le rap, le 56K, le Zika, Monica, tu faisais de la corde à sauter. J'ai découvert le basket avec Jordan et les poules. C'est le sexe sur des VHS cachés. Gamine te moque pas, même si t'es pas farouche. Tu feras moins la manine si je souffle dans ta carte. Plus d'un quart de siècle que j'exécute des quarts de cercle. Putain, soyez fair play. Bande de petits cons, je jouais, y'avait pas de sauvegarde. Respecté, c'est bien d'être jeune, c'est mieux de le rester. J'suis né avant les premiers Harry Potter. Qu'une vie, mais j'suis toujours pas game over. Plus là, j'me dis quelques amis moqueurs. Trop vieux pour ces conneries, Danny Glover. J'suis né avant les premiers Harry Potter. Qu'une vie, mais j'suis toujours pas game over. Plus là, j'me dis quelques amis moqueurs. Trop vieux pour ces conneries. J'ai vu s'envoler mes rêves de jeunesse et le centre de Ginola. Un dimanche, une fumée noire épaisse dans le ciel blanc d'Imola. Miroir, miroir sur le mur, dis-moi ce qu'il s'est passé. J'avais plus de cheveux sur les vieilles photos du lycée. Il paraît que c'est la maturité. Je vois surtout que je suis un peu plus ridé. J'ai l'impression que tout va trop vite, mais je mets deux fois plus de temps à uriner. J'ai les genoux qui grincent. Même le week-end, je me lève de bonheur. Quand j'ai le dos qui se coince, je pense à la phrase de Danny Glover. J'suis né avant les premiers Harry Potter. Qu'une vie, mais j'suis toujours pas game over. Plus là, j'me dis quelques amis moqueurs. Trop vieux pour ces conneries, Danny Glover. J'suis né avant les premiers Harry Potter. Qu'une vie, mais j'suis toujours pas game over. Plus là, j'me dis quelques amis moqueurs. Trop vieux pour ces conneries, Danny Glover. J'ai plus 20 ans, qu'est-ce que j'en chie quand je pousse trop. Comme le commandant, maintenant je me couche tôt. Trop vieux pour commencer la drogue. J'ai jamais vraiment suivi la mode. Mais laisse-moi me refaire un grog. Je te retourne comme une pile de prog. Mettez à l'abri vos mamans. Mon papa est arrivé. J'ai plus l'âge que j'avais avant. Je les ai mûres comme son fils d'avant. Croyez-moi, elles vont être servies. Je suis leur Tony Danza. Tant pis pour mon hernie, ça fait longtemps qu'elles attendent ça. J'suis né avant les premiers Harry Potter. Qu'une vie, mais j'suis toujours pas game over. Plus là, j'me dis quelques amis moqueurs. Trop vieux pour ces conneries, Danny Glover. J'suis né avant les premiers Harry Potter. Qu'une vie, mais j'suis toujours pas game over. Plus là, j'me dis quelques amis moqueurs. Trop vieux pour ces conneries, Danny Glover.
À 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Kesta, DJ Avray, qui mérite plus de succès, chers amis. Allez voir sur YouTube, tapez Kesta Danny Glover, trouvez sa chaîne, vous allez voir, ça mérite en tout cas, je trouve. Et puis un autre truc qui mérite d'être plus connu, c'est bien sûr la chronique de Mansour. La chronique de Mansour qui vous parle, comme je vous le disais tout à l'heure, du roi Hassan II, en l'occurrence, ce qui continue l'histoire commencée la semaine dernière, l'histoire du coup d'État. Alors on vous laisse avec ça sur le mix des cultures. Bonjour Doc Mansour, donc on vous retrouve avec grand plaisir pour continuer l'histoire de Hassan II qui commence à avoir des soucis. Hassan II.
Voilà, avec ce fameux général Medbou qui vient de découvrir l'ampleur de la corruption non seulement autour du roi et à l'intérieur même du Maroc. Pour préciser, le roi était totalement au courant car il est techniquement et réellement le propriétaire du pays.
Oui.
Donc Medbou, lui, à l'époque, il commençait déjà à ébaucher ça. Il va avoir d'autres généraux, d'autres militaires, mais il doit surtout avoir des hommes.
Oui, et des soutiens.
Donc là, il va se rapprocher de Bougrine, Mustapha, directeur des écoles militaires, et se rendre aussi à Meknès, et ce fameux général, capitaine et colonel, Ababou. Ababou est un personnage aussi intéressant, parce que lui aussi, il a un parcours plus qu'intéressant sur plusieurs niveaux. Lui, il est né en 1937-38, on ne sait pas trop, mais dans la province de Taza.
D'accord, donc dans la même province que notre ami le général.
Mieux que ça. Parce qu'en fait, lui, son père était un administratif qui était subordonné justement au caïd Medbou, au père du général Medbou.
D'accord, donc des proches, quelque part.
Plus que proches. Et au milieu des... Alors, Ababou est courageux. Téméraire, courageux, un peu frondeur sur les bords. Bon, il interne l'école française lui aussi à Taza. Élève brillant et relativement, par contre, coléreux et intrépide. C'est ce qui lui a souvent été reproché. Et en fait, il aime beaucoup parler qu'en français. D'accord. Oubliant quasiment sa langue natale et même l'arabe. Et en fait, lui, il est admiratif des GI américains, des Navy. Il a une vision de l'armée qui est assez... Et en fait, lui, comme il deviendra l'école, il devient directeur de l'école militaire où il forme des sous-officiers, et bien en fait, c'est un régime extrêmement dur.
Oui.
Parce qu'il veut des hommes qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Directement. Non seulement il adore la philosophie et la littérature française, c'est quelqu'un très cultivé, et en même temps, il est d'une brutalité hors norme. Oui, tout un raffinement et toute une brutalité en simultané.
La France également capable d'une certaine brutalité. Hein.
Oui. Il en a un peu irrité.
D'accord.
Et en plus, il a eu quelques déboires parce que plusieurs d'autres officiers se sont plaints de son comportement et qui était un peu brutal.
Il est assez impopulaire.
Impopulaire, oui, sur beaucoup d'aspects. Mais aussi bien c'est un dur, et contrairement à Medbou, il n'est pas très clean, il n'a pas les mains très blanches.
C'est un drôle de personnage avec qui s'associer quand même.
Oui, mais il s'associe avec quelqu'un qui a entre 1000 et 1500 hommes qui lui obéissent au doigt et à l'œil.
Donc drôle de personnage avec qui s'associer, mais tout de même associons-nous avec lui.
Voilà. Bien que les autres préparateurs de ce coup d'état, bah, en fait, ne voulaient pas trop de Ababou près d'eux, mais bon, ils se rendent compte qu'il est très efficace, ses hommes sont ultra efficaces, et que normalement il n'y aura pas d'accro avec ce brave homme.
D'accord.
Et ce qui se passe, c'est que en fait, la préparation de ce coup d'état qui est en train de commencer à arriver, en fait, ils disent... Et la date va être choisie pour le mois de mai.
D'accord.
1971. Et en fait, le mois de mai 1971, le 14 mai, c'est la fête de la création des forces de l'armée royale.
Ok.
Donc Hassan II, il y sera. Medbou, en tant que quasiment véritable chef des armées et ministre de la Défense non officiel, mais il l'est, clairement, doit être présent aussi. Donc, ce qu'ils sont en train de... Là où ils se mettent d'accord, c'est comment on va procéder. Bah en fait, ils veulent procéder que sur la route, sur le long de la route pour aller à Meknès et faire toute cette fête pour l'armée, c'est créer un guet-apens, bloquer Hassan II. Et là, entre eux, c'est là qu'il y a eu une discussion, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le garde comme roi, mais on lui retire toute autorité ? Ou on l'oblige à abdiquer totalement ? Et quelques-uns pensent carrément, c'est selon comment il réagit, l'exécuter.
D'accord.
Medbou ne veut pas l'exécuter.
Ouais, on peut comprendre.
Parce que pour lui, il est quand même symboliquement le commandeur des croyants.
Et puis il y a cette thématique-là aussi, oui, c'est vrai.
On ne peut pas éliminer le commandeur des croyants comme ça impunément.
Et puis en plus, quelque part, il doit quand même lui tenir. C'est un peu un petit frère pour lui, non ?
Oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'est plus ça qui l'attriste. c'est qu'il se rend compte que la personne qu'on lui a confiée, il l'a vu grandir, il connaît toute son intimité, tous ses bons côtés, tous ses travers, avec qui ils ont eu des confidences, bien que Medbou se confiait très peu. Comment arriver à vouloir éliminer une personne pareille? Non.
Oui.
Il veut juste lui retirer le pouvoir, il veut pas l'éliminer. Et
mettons qu'ils arrivent à lui retirer le pouvoir, est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent mettre en place? Une dictature militaire avec le général Medbou, une république, oui.
Ils avaient prévu, en fait, Medbou et d'autres avaient prévu, et justement le général Mustapha, de faire en sorte que l'armée prenne le relais avant d'instaurer une véritable république.
D'accord.
Mais ce qui se passe à l'époque, c'est que la plupart des généraux, Medbou à part, ont plus ou moins participé à la traque et à l'assassinat de Mehdi Ben Barka.
D'accord.
Et les partis d'opposition, dont l'Istiqlal et les partis de gauche,
ne doivent pas les tenir dans leur cœur.
Et bah justement, une alliance contre nature.
Ah, comme quoi l'opportunisme.
Ah, c'est-à-dire que ceux qui avaient comme leader Ben Barka se rallient avec les gens qui sont potentiellement, et partie d'entre eux, c'est clair et net, ont contribué à sa capture et à son assassinat.
Bon, ça sent clairement pas bon pour Hassan II, là. Est-ce qu'il y a des soutiens, encore une fois, étrangers autres que l'Égypte? J'entends par exemple l'URSS ou un autre pays de gauche du bloc de l'Est.
Non, mais déjà, dans tout part de l'affaire Ben Barka, un jour on en parlera si vous voulez, c'est beaucoup
plus complexe. Avec grand plaisir.
Où la CIA était un peu mouillée déjà dans cette histoire-là.
Dans quoi n'est-elle pas?
En tant qu'observateur, là,
ah,
à leur décharge.
D'accord.
Okay. Ils ont peut-être insinué certaines choses du bout des lèvres, qui est sorti juste du bout de la langue, et peut-être que quelqu'un a exécuté. Vous savez, c'est ce qu'on.
Des fois, il y a des circonstances malheureuses, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon.
La CIA est aussi très opportuniste sur certaines situations.
Ouais, ouais,
s'ils pouvaient sauter sur l'occasion. Donc là, en fait, tous ces généraux jouent au poker.
Ouais.
Ils disent bon, mais voilà, Medbou va reculer ce jour-là.
C'est-à-dire?
Et ben en fait, Hassan II a fait une demande très étrange ce jour-là. C'est pour ça que c'est un grand mystère aussi. Il a demandé que deux hélicoptères survolent le convoi.
Mmh, il se serait méfié.
Et là, Medbou se dit, j'ai un chronomètre à respecter, j'ai des hommes qui arrivent avec des camions, entre 1000 et 1500 hommes qui arrivent, pour barrer le secteur.
Et ça se repère facilement. Hein.
Et en hélicoptère, ça va très vite se repérer. Et ben de justesse, il arrive à annuler l'opération.
D'accord. Mais ces hélicoptères, c'est le fruit du hasard ou est-ce qu'il y aurait éventuellement des petites informations qui fuitent?
D'après Medbou, c'était la troisième fois de toute sa carrière que vous voyez le roi demander ça.
D'accord.
Et pourquoi ce jour-là, on ne sait pas.
Peut-être pas de chance.
Voilà. La faute n'a pas de chance. C'est un concours de circonstances qui fait qu'il a sauvé la vie d'Hassan II ce jour-là. Ou du moins son pouvoir.
Son pouvoir, à minima.
Voilà. C'est très... Et Medbou a été très rapide à réagir.
Oui, on reconnaît l'officier efficace.
Mais l'anecdote qu'il y a là, c'est qu'il a une dispute avec Ababou. Ababou dit, tu as reculé, il ne fallait pas reculer, c'est un acte de lâcheté. Bon, c'était l'autre,
sûr.
Il est impulsif en même temps.
C'était
Medbou est beaucoup plus réfléchi, Ababou est un grand impulsif.
Votre opinion, Doc Mansour, est-ce qu'il aurait dû foncer ou est-ce qu'il a bien fait de reculer?
À mon avis, il a très bien fait de reculer.
Mm-hmm.
Parce que Hassan II était très bien escorté, avec des gardes très fidèles. Je pense que là, on aurait eu un bain de sang des deux côtés.
Bon.
Et je pense que là, le roi aura pu mourir à ce moment-là, on ne sait pas.
Medbou aussi.
Et Medbou aussi, le problème, c'est ça, c'est que les balles, une fois qu'elles ont fusé, qu'on est au milieu de la fusillade...
C'est un coup à finir avec Ababou, président de la République du Maroc, ce serait malheureux.
Ah, ça aurait été plus que malheureux pour certains.
Ouais.
Donc, en même temps, donc là, c'est fini, ils se disent, bon, on va attendre l'été. Et juillet 1971, c'est une particularité, c'est l'anniversaire du roi. Il va fêter ses 42 ans.
Bon anniversaire à lui.
Oui, mais... En même temps, c'est beaucoup plus stratégique de la part de Medbou. Donc, c'est sur Skerat, qui est pas loin de Rabat. Et symboliquement, Skerat, on va dire, c'est l'opulence la plus exagérée. Et en fait, c'est quasiment...
Le Versailles du Maroc.
C'est offusquant.
D'accord.
En fait, à Skerat, le roi a fait construire un terrain de golf de 18 trous.
C'est une taille classique pour un terrain de golf.
Oui, au détriment des paysans qui n'avaient plus d'eau.
Ah bon, effectivement, ça c'est déjà plus malheureux.
Un palais royal avec salle du trône et des multiples pièces.
C'est classique pour un palais royal.
Voilà, près de la plage. Et en fait, pendant cette période, pendant ces fêtes d'anniversaire, Medbou explique aux autres ce qui s'y passe. Il y a énormément de victuailles, le roi est présent, mais il invite aussi tous les ministres, une grande partie des généraux et des commandants de l'armée. En gros, s'ils arrivaient à s'emparer de Skerat ce jour-là, en gros, le Maroc, il tombe. Parce que tout est là.
Ouais.
Tous les pouvoirs sont là.
Puis ça va pas être trop difficile.
Bah non, parce que là, c'est une fête.
Oui, il suffit d'encercler le palais, et puis voilà.
Donc, bah, pour savoir ce qu'il y avait, pour ceux qui veulent bien lire, donc il faudrait lire Benoît Méchain. Alors, Benoît Méchain, qui est historien, mais aussi faisait partie vichyste et pétainiste notoire.
Un homme sympathique.
Et ami intime de Hassan II.
Eh bah, décidément, il a de très jolies fréquentations, ce monsieur Hassan II.
Oui, mais... Donc, on est en 71, et Benoît Méchain est invité. Et lui, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle « Deux étés en Afrique », ou « Les deux étés africains », où il explique justement quand il est arrivé à Skerat, il était sur la route, et à un moment, justement, il a vu un convoi de militaires, mais ça l'a paru curieux, mais il n'en a pas parlé. Ouais. Et en fait, il écrit lui-même, dans ce qui est un livre mémoire, qu'une fois arrivé sur le lieu de la fête, il voulait en informer son ami Hassan II, puis il dit bah, au final, non, parce que je peux paraître ridicule, peut-être que c'est une escorte qui l'a fait venir. Donc il a préféré la dire pour ne pas passer pour quelqu'un de ridicule.
Ben, on peut le comprendre.
Et en fait, il ne faut pas oublier que de Taza jusqu'à Skerat, il y a plus de 300 km.
Mais c'est quasiment la traversée du pays.
Voilà. Donc des centaines de camions surarmés, ça ne passe pas inaperçu.
Ouais.
Et si vous réfléchissez bien sur ces 300 km, vous avez plusieurs camions armés. C'est qu'en fait, la complicité est à plusieurs niveaux. Police, militaire, administratif.
Ouais.
On a laissé passer tout le monde.
D'accord, tout était très bien organisé par notre ami Medbou.
Voilà. Et c'est les généraux à qui il était.
Mmh.
Donc, tout devait se passer normalement, sans accroc. Arriver à Skerat, neutraliser les invités, parce qu'il y avait aussi des ambassadeurs de pays étrangers.
Ah, ça peut être dangereux ça, non ?
Oui, mais en même temps, on marque vraiment le coup au niveau international ce jour-là.
Oui, c'est vrai.
Et en même temps, là où la force est symbolique, on a le commandeur des croyants, Hassan II, qui a des invités, musulmans et non, et en même temps sert de l'alcool et des victuailles que les gens ne pourront jamais s'offrir.
Oui, là, il est pris en faute.
Voilà.
Il perd toute crédibilité en tant que commandeur des croyants. Quoi.
Voilà. Donc symboliquement, la Medbou a bien veillé à très bien jouer.
Ouais, c'est un très bon coup politique. Oui.
Voilà. Non seulement politique, mais aussi au niveau symbolique.
Oui.
Mais ils ont juste que, à côté d'Hassan II, il y a Oufkir, son homme de main.
D'accord.
Des basses œuvres, condamné par contumace en France pour l'affaire Ben Barka.
Ok.
Au bagne à perpétuité.
Tout tourne autour de cette histoire. Hein.
Ah oui, systématiquement, tous ces gens-là ont été mêlés à l'assassinat de M. Ben Barka. Et en fait, on sait qui est Oufkir. Mais Oufkir n'est pas un tendre.
Ouais.
On dit même qu'il a la torture subtile parce qu'il y va de ses propres mains.
Oui, apparemment, c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les grands noms de l'histoire, entre guillemets.
Voilà. Donc, il est proche de Hassan II. Et justement, au moment où se passe ce fameux assaut des hommes de Ababou, et ben là, il y a quelque chose qui se passe et déjà, ils ont quasiment une heure de retard.
Oui, on sait pourquoi.
Parce que, bah justement, là, il y a un espace-temps temporel. Là, je ne sais pas ce qui a dû se passer parce que personne n'arrive. Tout ce que j'ai lu, ils n'arrivent pas à se comprendre ce qui s'est passé.
Ils sont arrêtés pour manger des fraises en Belgique, peut-être.
Medbou avait prévu de prendre Skerat juste avant l'arrivée des invités,
ouais.
Pas au moment de l'arrivée des invités.
D'accord.
Et on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Après, et là, c'est Benoît Méchain qui le parle très bien. Ils étaient en train de dîner. Je vous résume hein, ce qu'il a écrit, vite fait. Et il entend des crépitements. Ah, pour eux, c'est peut-être Moulayafid, hein, des frères et cousins du roi qui s'amusaient à faire une fausse attaque du palais, comme il avait l'habitude de faire.
Oh, ça, c'est bon pour se relaxer. Ça.
D'autres croyaient que c'était un feu d'artifice, mais en regardant dans le ciel tout bleu, il n'y avait rien. Mais ça se rapprochait, et à un moment, Benoît Méchain reconnaît le son. C'est des tirs de mitrailleuse et des obus.
Oula.
Le problème, c'est que les hommes d'Ababou tirent aussi sur les invités.
Ouh, ça c'est risqué, ça, monsieur Ababou.
Oui, et là, c'est... le début, on va dire, de quasiment un massacre en règle.
D'accord.
Donc là, c'est une tuerie, en fait, qui est en train de se produire. Oufkir, qui a un bon réflexe, prend le roi par le bras.
Il arrive à l'exfiltrer.
Il l'exfiltre et il se met derrière les toilettes qui sont derrière le trône.
D'accord.
Dans un coin. Et là, Medbou a une réaction très bizarre. C'est que Ababou cherche le roi partout. Et là, Medbou, je pense qu'il a compris que Ababou voulait le tuer.
Ouais, il n'a pas l'air d'être venu pour enfiler des perles, monsieur Ababou.
Alors là, on va pouvoir imaginer tout ce que vous voulez. C'est qu'à la fin de la tuerie, on trouvera Medbou mort. Certains diront qu'il a pris une balle perdue. Mais à mon humble avis, il a dû avoir une dispute avec Ababou. Et Ababou, on a fini.
Oui, c'est à ça que ça ressemble de là où on est assis.
Oui, et surtout que au moment où Ababou s'en va, Medbou va avoir un comportement très étrange.
Mmh.
Il va frapper à la porte des WC et demande à parler au roi.
Mmh.
Il parle avec. Et apparemment, bon, la discussion est plutôt courtoise entre les deux hommes parce qu'ils se connaissent bien. Et il propose au roi de négocier et d'abdiquer.
Oui.
Et d'après Oufkir, le roi a catégoriquement refusé.
C'est plutôt courageux de sa part.
Oui, plus que courageux.
Il a déjà des enfants à cette époque-là, Mohamed est déjà né.
Oui.
Ouais.
Et là, sa grande force, c'est que Medbou, en fait, se rend compte que le roi ne veut pas abdiquer et qu'en dehors, c'est une tuerie qui est en train de se produire.
Et le roi va mourir.
En fait, la situation est en train de lui échapper.
Mm.
Et en fait, c'est quand il repart et qu'il croise Ababou qu'apparemment, il aurait pas dit où était le roi, il aurait dit que le roi refusait de négocier.
D'accord.
Et je pense que là, il s'est fait éliminer.
Ababou aurait peut-être même essayé de faire d'une pierre deux coups, finalement, parce qu'il se débarrasse d'un rival important si jamais son coup d'état réussit.
Un rival et un témoin.
Et un témoin, en plus. Mm.
Donc, en gros, on va dire que la conjuration perd sa tête la plus solide.
Ouais, mais elle perd un peu tout, la conjuration.
Voilà. Et en fait, Ababou, ne trouvant pas le roi, qu'est-ce qu'il décide de faire? Ce qui était prévu dans le plan, bah, s'accaparer les chaînes de télé et les radios.
Oui.
Pour annoncer que le roi, entre guillemets, a abdiqué ou il est mort. Et c'est ce qu'il va annoncer. Il va dire le roi est mort, vive la République.
C'est un peu risqué de le faire si prématurément, non?
Oui, sauf que là... De l'autre côté, le temps qu'il aille jusqu'à Rabat s'approprier la radio et la télé,
mmh.
Et le roi est trouvé par les hommes d'Ababou.
D'accord.
Mais au début, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils sont tous en pattes d'éléphant et chemise avec des cols beaucoup trop grands. Ils ne le reconnaissent pas au tout début et après, ils le reconnaissent. Et là, on l'emmène un peu plus loin. Et là, pareil, Benoît Méchand l'explique bien qu'il le voit partir avec plusieurs hommes, deux rafales de mitraillettes. À partir de là, on peut imaginer quoi?
Que le roi a été tué.
Voilà.
Mais il ne l'a pas été.
Non, retournement de situation. Le roi réapparaît avec ses hommes, tout souriant, lui-même. Avec, comme dirait Benoît Méchain, avec un air de satisfaction et d'autorité.
Oui, des hommes loyaux qui l'ont sauvé.
Après, comment Hazen II raconte ça? C'est qu'il dit que quand les hommes l'ont emmené, l'un d'eux l'a reconnu.
D'accord.
Il a récité les premiers versets du Coran qu'on appelle la Fatiha, l'ouverture. Les hommes ont récité avec lui en le reconnaissant, se sont mis à pleurer et l'ont rallié.
Bon, lui, il dit qu'il les a subjugués, quoi.
Voilà. Bon, à mon avis, ça, c'est un peu de la légende, mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais vous verrez, je donnerai mon impression dans le prochain épisode par rapport à cette histoire-là.
Avec plaisir.
Mais au moment où ça se passe, quand le roi revient, comme c'est Oufkir qui l'avait fait sortir, rentrer dans les WC, donc en gros, lui sauver la vie, il regarde Oufkir et lui dit « Un instant T, je te donne tous mes pouvoirs royaux, militaires et civils. » Oufkir emprunte un uniforme d'un aviateur qui était pas loin.
D'accord.
Oufkir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les hommes qu'il a juste autour de lui et va jusqu'à Rabat éliminer Ababou.
Sur une espèce de petit coup de poing, quoi.
Ouais, opération plus que coup de poing, parce qu'il va pas faire que ça. Curieusement, comment Oufkir connaissait le... Il savait qu'il allait être à la radio à Ababou, mais il a éliminé d'autres conjurés.
Mmh.
Il était pas censé savoir où ils étaient.
Des gens auraient parlé, peut-être?
Ah, on aurait parlé très vite, parce que tout ça s'est passé en quelques heures. Ça a été très très rapide. On sait qu'au niveau interrogatoire, il est très efficace.
Certes.
Il avait des méthodes bien à lui.
Medbou, vous pensez?
Ah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Oufkir savait très bien qui devait éliminer, à quel moment. D'autres ont été arrêtés. Il y a eu des exécutions. Donc, le lendemain, le roi Hassan II fait une allocution, et phrase très énigmatique et étrange, « Aujourd'hui, je suis un peu plus roi qu'hier. »
Là, sa légitimité est drôlement assise.
Ah, plus qu'assise, parce qu'il échappe à une tuerie, on ne sait comment, tout en brodant une légende autour, donc ça le grandit. Mais aussi, là, il y a un jeu qui est en train de se mettre en place entre Oufkir et Hassan II, c'est que Hassan II se rend compte qu'il peut quasiment rien faire sans Oufkir cette fois-ci. Oufkir l'a couvert, a fait toutes les sales besognes jusque-là.
Ouais.
Il lui sauve la vie, il continue à faire les sales besognes, et les deux hommes ont un petit contentieux à régler à ce moment-là.
Oula.
C'est que parmi les hommes, les généraux, les mutins, certains vont être exécutés. Et on sait que Hassan II a regardé l'exécution de loin. Et parmi les gens qui ont été exécutés, trois en particulier étaient les amis proches d'Oufkir et qui n'avaient rien à voir dans la conjuration.
Une vengeance personnelle.
Je ne sais pas si c'est une vengeance ou plutôt un avertissement.
D'accord, ok, oui, histoire de dire, reste à ta place quand même.
Voilà. Et je pense que là, Oufkir a dû garder une rancœur de ça.
Bon, morale de cette histoire, il vaut peut-être mieux être entouré de barbares comme Oufkir que de preux comme Medbou, alors.
Ah, voilà, ça dépend.
Bon, je propose qu'on continue cette intéressante conversation la semaine prochaine, cher Doc Mansour.
Tout à fait.
Et on va retourner la suite de votre Blabla Mix. On a hâte de retrouver la suite des aventures du roi Hassan II et de sa chance finalement assez surprenante, assez incroyable. Et en attendant, bien sûr, pour se détendre après ces petits moments de tension géopolitique, je vous propose qu'on écoute de la musique avec Vain Valkyries, Casablanca sur le Mix des Cultures.
Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
On se laisse emporter par la musique sur le Blabla Mix, puisque comme vous l'avez peut-être compris, nous avons été rejoints par notre invitée Mélanie Hamon, que nous allons appeler Mélanie à partir de maintenant, qui est donc bibliothécaire à la Bibliothèque du Châtelet et qui vient nous présenter les activités de cette rentrée de la bibliothèque. Alors bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir retrouver à la Bibliothèque du Châtelet en ce moment et dans les prochains temps?
Alors là, après la coupure estivale, les programmations de la bibliothèque reprennent, comme pour toutes les bibliothèques de Rouen, mais donc plus particulièrement celle du Châtelet, puisque c'est celle qui va en fait nous occuper, puisque c'est celle du quartier. Donc en fait, à partir du 14 septembre, on va retrouver les bibliothèques sur un stand de la fête du quartier. Les bibliothèques participent, la bibliothèque du Châtelet participe à la fête de quartier.
La fête de ce samedi, là,
exactement.
Super.
Ouais. Donc là, on a, comme tous les ans, on sort des albums, on sort des romans, on sort des BD, des mangas, tout ce qui peut intéresser, en fait, les enfants. On crée un petit coin cocooning avec des coussins, des tapis, des poufs. Et puis voilà, donc on invite les enfants, les parents à s'installer, à prendre un livre, à lire à 1, à 2, à 3. Et la particularité de cette année aussi, c'est que donc les bibliothécaires du Châtelet, des collègues également des crèches, des centres de loisirs et aussi des PMI ont été formés à la lecture individuelle avec les bébés, avec les petits.
Des PMI ?
Les PMI, c'est les... Pardon, médicaux...
les sigles, c'est pas toujours facile.
Non, je sais plus, les...
On vérifiera, puis oui. On dira, ne vous inquiétez pas.
C'est l'émotion de la radio. Et en fait, ce sont des spécialistes en périculture de toute façon. C'est là où on emmène son enfant pour les visites des 1 mois, 3 mois, les vaccins, etc. Et donc voilà, donc toutes ces professionnels-là qui ont un lien avec l'enfance et notamment la petite enfance, on a toutes été formées cette année à la lecture individuelle, c'est-à-dire un livre, un enfant... une lecture et ben voilà comment on accompagne l'enfant dans la lecture, comment on le laisse vivre le livre comme objet d'abord et puis voilà il ouvre les pages, il regarde les images et puis s'il en a envie eh bien on fait la lecture.
Alors vous peut-être vaut-il mieux le rappeler, vous êtes spécialiste du livre jeunesse.
Oui, hein, exactement, moi je suis bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque du Châtelet, exactement.
Mais alors ça. Du coup comment ça se passe cet accompagnement de la lecture des jeunes enfants?
Alors quand on parle de jeunes enfants on parle de bébés, hein, on parle de 0-3 ans là, on parle
très très jeunes enfants,
tout petit, on peut même commencer enceinte à lire, papa, maman, tout le monde peut lire au bébé, même dans le ventre de la maman. Donc en fait voilà, c'est juste de proposer à l'enfant un livre que lui va découvrir d'abord comme un objet, donc le laisser découvrir l'objet, jouer avec, le manipuler, le retourner, le mettre à l'endroit, à l'envers, tourner les pages par deux, par trois, le refermer, éventuellement monter dessus, faire des piles de livres. Donc voilà, une fois qu'il va avoir ce sens un peu pratique de l'objet livre, eh bien, l'accompagner dans la lecture.
Parce que la découverte de l'objet livre peut se faire avant l'apprentissage de la lecture.
Exactement, voilà. Au mieux, évidemment, c'est si le livre fait partie de l'univers de l'enfant à la maison. Si ce n'est pas le cas, à la bibliothèque. Et donc, on accompagne les enfants dans cette découverte de l'objet d'abord ludique, voilà.
Et du coup, ça le soutient dans sa façon de lire, parce que vous dites on l'accompagne dans sa lecture, c'est-à-dire on regarde comment il pratique, on regarde peut-être, je ne sais pas, s'il regarde les images, s'il manipule l'objet.
Alors, on regarde, oui, il y a une phase d'observation parce qu'on est des professionnels de la petite enfance, mais c'est surtout d'un petit peu gratter pour lui faire découvrir, lui donner envie d'aller voir, lui donner l'envie d'être curieux, voilà, tout simplement. Et puis que ensuite, eh bien, on va dire les règles de lecture vont s'imposer à lui de façon naturelle. Et puis, eh bien, il saura tourner les pages, savoir comment on regarde le livre, dans quel sens. Et c'est vraiment une histoire aussi de moments présents. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une sorte de méditation finalement. C'est vraiment quand on fait cette lecture individuelle avec l'enfant, c'est alors on prend l'enfant sur les genoux ou pas, s'il a envie d'être de sentir le contact ou pas, on respecte ça, cette distance qu'il a envie de mettre ou pas. Et puis ensuite, c'est vraiment un temps. En fait, on crée une bulle avec l'enfant, voilà. Et on essaye de faire en sorte, en tant qu'adulte, en tant que personne qui lit, qui présente le livre, d'être vraiment dédié à l'enfant. Et puis, bon, voilà, on va nous voir un petit peu ses réactions et puis lui donner envie d'être curieux. Voilà.
Alors bon, d'abord, l'enfant de 0 à 2 ans découvre l'objet livre comme ça, de cette façon. Ensuite, peut-être, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que le deuxième contact que l'enfant va avoir avec le monde de la littérature, c'est peut-être le conte. On lui raconte un conte. Vous avez des ateliers là-dessus, si je ne m'abuse, non?
Oui, alors on a deux rendez-vous pour les enfants autour donc, des histoires, des albums en général. Le conte, c'est vraiment un genre littéraire dans la littérature de jeunesse. Là, on parle vraiment d'albums, c'est-à-dire une histoire avec des illustrations par un auteur illustrateur, voilà, donc un album. Donc on a deux rendez-vous, on a un rendez-vous qui s'appelle « À petit peut-on vers les histoires » qui sont le mercredi, une semaine sur deux à 10h30 à la bibliothèque du Châtelet. Donc là on va plutôt accompagner, recevoir des crèches, mais aussi des parents qui viennent avec des tout-petits, avec des bébés. Et c'est un temps donc, où on va dans la salle d'heure du conte, où ma collègue et moi avons préparé des histoires qui correspondent à l'âge des enfants. Et puis, c'est comme on dit hein, aux adultes, ben, c'est un temps pour les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer, ils peuvent parler, ils peuvent sortir pour aller aux toilettes, ils peuvent intervenir, ils peuvent venir prendre le livre. Voilà, c'est pas l'enfant qui s'adapte à ce temps de lecture, c'est l'adulte, donc le conteur qui lit à ce moment-là, qui s'adapte à l'enfant.
Oui, c'est la lecture vue non pas comme ça peut l'être parfois une souffrance, mais vraiment la lecture au sens ludique.
Exactement.
Super.
Plaisir.
Et du coup, vous nous avez dit qu'il y avait un deuxième atelier également ?
Oui, alors il y a deuxième rendez-vous. Donc en alternance avec les À petits petons vers les histoires, on a les croquants d'histoire. Donc les À petits petons vers les histoires, c'est les 0-4 ans. Et les croquants d'histoire, c'est 4-5 ans et plus. Donc les croquants, c'est le mercredi, donc en alternance avec les À petits petons. Et c'est là à 16h. Donc là, c'est pareil. On a un temps de lecture dans la salle d'heure du conte. Donc, c'est une petite salle. C'est comme un petit amphithéâtre qui est un petit peu isolé, où on peut jouer un petit peu avec la lumière. Donc, ça, c'est sympa parce qu'on peut créer des ambiances. Et puis, donc, on va raconter des histoires à des enfants plus grands, donc sur des thèmes différents. Ce qui va changer, ce n'est pas forcément le rythme. Ça va être les histoires, donc le vocabulaire dans les histoires et puis le nombre d'histoires aussi. Donc, on s'adapte.
On en parlait un petit peu avec votre collègue, si je ne m'abuse, Florent, la semaine dernière. On a l'impression parfois que le bibliothécaire, c'est juste la personne qui est assise derrière le comptoir et qui, une fois de temps en temps, récupère les livres ou gronde quand le livre n'est pas de retour. Mais en fait, du coup, vous créez aussi des choses. Non seulement il y a le côté on acquiert des livres, mais là, vous, par exemple, ces ateliers, c'est vous qui les avez mis en place. Vous, j'entends au sens large, la bibliothèque du Châtelet.
Alors, la bibliothèque du Châtelet, le réseau des bibliothèques de Rouen, c'est vraiment ces rendez-vous-là ont lieu dans toutes les bibliothèques du réseau. Donc, il y a 7 bibliothèques à Rouen et à la bibliothèque du Châtelet. On a la chance d'avoir une salle qui est dédiée, mais ça nous arrive aussi de faire les heures du conte dans les espaces pour inviter en fait aussi les parents, inviter les plus grands enfants qui disent « Oh non, moi je suis trop grand ». Puis en fait, ils adorent ça. Hein. Ils l'avouent pas forcément, mais ils aiment bien ça, écouter les histoires. Donc on a ces rendez-vous-là ouais, voilà, qui sont proposés. Donc on est des médiateurs du livre. Voilà, un livre, il vit pas tout seul, il faut aussi le faire vivre.
Bon alors, l'enfance, c'est l'époque où parfois on fait beaucoup de cauchemars. Hein, et puis finalement, quand on devient grand, on fait aussi des cauchemars, notamment liés à tout ce qui est administratif, papier administratif, paperasse et tutti quanti, comme on disait dans les années 80. Et vous êtes là également pour aider les habitants face à ce monstre de papier.
Exactement. Donc, je crois que c'est la troisième année, je crois que c'est la troisième année. Donc en association, en partenariat avec le centre social hein, juste à côté, la bibliothèque a voulu, avec le centre social, proposer de l'entraide administrative parce que on a tous été un jour face à des formulaires à remplir, des papiers, et puis un jargon aussi, un vocabulaire qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Hein. C'est quand même assez rugueux, hein, on va le dire comme ça. Et donc voilà, donc on s'est aperçu qu'en bibliothèque, on avait des gens de plus en plus qui venaient, parce qu'on a des connexions internet à la bibliothèque, donc on avait de plus en plus de gens qui venaient sur des temps d'ouverture de la bibliothèque et qui nous demandaient un coup de main. Sauf que pendant les heures d'ouverture en lecture publique, on n'a pas forcément le temps et on ne peut pas se consacrer uniquement à une personne, et parce qu'on ne va pas forcément déjà être de bons conseils et savoir l'aiguiller correctement, donc au final, on lui ferait perdre son temps plus qu'autre chose. Et puis, on n'avait pas de temps consacré. Donc, avec le centre social, on a créé ce partenariat pour... là, c'est tous les vendredis, donc une semaine sur deux aussi. À partir là, du 20 septembre, ça reprend. Ça s'appelle SOS Paperasse. C'est de septembre à juin. Et donc, ce sont des professionnels, des assistants sociaux, des bénévoles. Il peut y avoir des juristes, des bénévoles qui ont une connaissance également du monde administratif et puis de l'entraide, qui viennent pour toutes les démarches administratives, hein, quelles qu'elles soient, CAF, chèque énergie, rédaction de CV, de lettres de motivation, retraite, impôts, demande de documents d'état civil, tout. Et également, l'aide à la connexion Internet, hein, c'est aussi une façon d'essayer de réduire la fracture numérique, donc d'accompagner les personnes pour des fois juste la création d'une boîte mail pour pouvoir créer un compte, puisqu'on sait que maintenant, il y a beaucoup de choses dématérialisées qui n'est pas forcément accessible à chacun. Donc déjà, d'avoir une personne qui accompagne devant l'ordinateur pour ne pas se sentir complètement perdu face à cette machine. Quoi. On recrée On remet de l'humain, en fait.
Parce qu'on peut avoir accès facilement à des ordinateurs à la bibliothèque du Châtelet ?
Oui, tout à fait. On a 3 ordinateurs qui sont accessibles sur nos heures d'ouverture. Pour les utiliser, il vous faut seulement une simple carte de bibliothécaire, une carte de bibliothèque, en sachant que la carte de bibliothèque est gratuite pour tous les Rouennais. Donc, on demande juste un justificatif de domicile pour pouvoir
la paperasse.
Justifier d'un domicile à Rouen. Alors, justificatif de domicile, ça peut être un courrier, ça peut être même une carte postale avec l'adresse et puis le cachet de la poste de moins de 6 mois, ça peut être une publicité, ça peut être mettre sur le smartphone, on n'a pas besoin d'avoir le papier physique. Et donc ensuite, cette carte de bibliothèque vous donne droit à 45 minutes au moins de connexion par jour sur nos ordinateurs.
Admettons que je sois habitant de Gramont, hein, comme certains de nos auditeurs, et que je sois moi-même terrifié devant la paperasse. Est-ce que, par exemple, je peux aller à la bibliothèque de Gramont et leur demander de l'aide également, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe qu'au Châtelet ?
Alors, pour l'instant, ça n'existe qu'au Châtelet. Les collègues à Gramont seront vous rediriger. S'ils ont un peu de temps, peut-être qu'ils pourront, mais voilà, on ne sait jamais. Déjà, on ne sait pas si on va en être capable. Donc vraiment, vous allez être redirigé vers cet accueil, donc qui s'appelle SOS Paperasse et qui reprend à partir du vendredi 20 septembre à la bibliothèque du Châtelet. Et en plus, il y a toujours de la bonne musique. Et puis on accueille autour d'un thé, d'un café. Et puis il y a toujours des trucs sympas à manger. Et on a là des habitués qui viennent et qui nous ramènent plein de petites gourmandises, à partager. Donc ça, c'est sympa aussi.
Bon, alors, outre les enfants les paniqués administratifs, comme certains peuvent l'être, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite activité là, qui commence en septembre ?
Alors, en septembre, on va avoir tout le pan multimédia qui va également démarrer. Donc, il faut savoir qu'à la bibliothèque du Châtelet, on a un atelier numérique, un Châtelet Maker Lab.
Oula ! Châtelet Maker Lab, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, pour les initiés, c'est le Chamalab.
Ah, le fameux Chamalab. Est-ce que vous voulez bien nous redéfinir ce que
oui.
c'est ?
Donc en fait, le Chamalab, hein, c'est Châtelet Maker Laboratoire. C'est un laboratoire de fabrication, un laboratoire pour utiliser différentes machines-outils. En fait, c'est un lieu public qui est mis à la disposition de chacun. Et on va trouver sur place, je vous disais, certains outils pour le bricolage, pour la couture notamment. Et également des machines-outils pilotées par ordinateur. Comme là, par exemple, on a une imprimante 3D. Et pour faire découvrir tout le potentiel de ce Chamalab, de cet atelier de fabrication, il va y avoir plusieurs rendez-vous, et notamment le 25 septembre, donc à la bibliothèque du Châtelet, une initiation à l'utilisation de l'imprimante 3D à 14h. Donc il y aura un de nos collègues qui est lui médiateur numérique, qui sera là donc à 14h, pour présenter les outils, notamment l'imprimante 3D, et donc vous proposera des démonstrations d'imprimante 3D, donc imprimer, une figurine, un badge, une bague, une petite pièce d'ameuble Ikea manquant, tout ce qu'on peut imaginer pour l'usager.
Je viens de découvrir ce que voulait dire Chamalab après tous ces mois à le voir passer devant moi. Alors bon, quoi d'autre ? Alors qu'est-ce qui va se passer d'autre ?
Alors on va avoir aussi, pendant les vacances de la Toussaint, 2 ateliers, toujours autour de l'imprimante 3D, donc là pour fabriquer des petites décorations d'Halloween.
D'accord.
Petit fantôme, petite citrouille, je ne sais pas exactement encore. Donc là, ce seront les samedis 19 et 26 octobre.
Et si, est-ce qu'on peut s'attendre à des décorations d'Halloween à la bibliothèque ?
Ah oui, on a quelques petites choses, des os, des toiles d'araignée. Oui, on fait toujours une petite déco, et à la bibliothèque, on aime bien se déguiser. Alors l'année dernière, on s'était déguisé en vieux bibliothécaire ronchon.
Donc on peut s'attendre à trouver Florent et Mélanie déguisés en vieux bibliothécaire.
Je ne sais pas si on va réitérer, mais en tout cas, c'est possible qu'on ait une toile d'araignée ou une chauve-souris sur la tête, ça c'est possible, on aime vraiment bien ça.
Il ne va pas falloir manquer ça, chers auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent ?
Oui, donc toujours autour de l'imprimante 3D à Noël, enfin au moment de Noël, là on est le 26 novembre, une fabrication de décorations de Noël, donc des petites décorations de Noël aussi à partir de l'imprimante 3D.
Mais ouais. C'est une machine que vous avez bien fait d'acquérir, cette imprimante 3D, vous l'utilisez bien.
On l'utilise bien, ouais, on l'a utilisé pour faire des petites figurines Batman au moment de l'anniversaire des 80 ans de Batman au mars l'année dernière. Il a été utilisé aussi pour faire des petits objets autour d'Harry Potter parce qu'il y a eu un anniversaire l'année dernière des 20 ans d'Harry Potter, donc oui, on l'utilise pas mal. Ouais.
Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres événements de l'ampleur de cette, je crois que c'était une semaine Batman, une journée Batman?
Oui, mais c'était pour les 80 ans de Batman. Bon, là, cette année, on ne va pas faire ses 81 ans. là, pour le moment, alors, sur de gros événements comme ça, c'est beaucoup de préparation en amont. Il y aura d'autres.
Beaucoup de préparation en amont. Y a-t-il un jeu de mots à faire avec votre nom de famille? Je ne sais pas.
Non, pas du tout. C'est très... C'est mauvais d'ailleurs.
J'ai pas dit que j'étais drôle.
Non, mais c'était bien d'essayer, c'était bien de le tenter, on me l'avait jamais fait. Non, on va se diriger vers d'autres thématiques. Là, par exemple, le 9 octobre, on aura un spectacle de proposer à la bibliothèque. Donc, oui, j'ai pas précisé, hein, mais tous ces rendez-vous-là sont bien entendu gratuits.
D'accord.
Ça, c'est important. Certains nécessitent une inscription parce que, en termes de matériel et puis même de remplissage de salles, on est limité. Hein. Mais de toute façon, tout est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire. Et encore, tous les rendez-vous ne sont pas forcément soumis à inscription. Donc, on va avoir le 9 octobre, on a la chance cette année de recevoir un des contes du festival du conte de Fréquien Echo. C'est un festival de contes qui existe depuis 30 ans, qui a lieu donc sur le Pays de Caux, autour de Rouen. Et donc là, on va recevoir un spectacle de la compagnie Conte Goutte qui s'appelle « Un jour, mon prince viendra ». Voilà, je ne sais pas si vous connaissez la chanson.
Bien sûr, je la connais, ça me rappelle ma jeunesse. Malheureusement, le temps commence à manquer. Je vous propose qu'on refasse un petit bilan. Donc, on va voir si j'ai bien retenu. À petit peu-ton vers les histoires, c'est un mercredi sur deux.
Oui.
Ça reprend quand déjà?
Alors, à petit peu-ton vers les histoires, ça va reprendre ça va reprendre en octobre.
Désolé.
Non, c'est rien, c'est moi qui ne suis pas. On va avoir les croquants d'histoire qui vont reprendre le 25.
Donc en alternance avec les petits petons.
Et en alternance avec les petits petons. Donc les petits petons, ce sera à partir du 9 octobre. Et par contre, il n'y en a pas pendant les vacances scolaires. Ça, c'est important de le dire.
Des fois, il faut bien se reposer aussi un petit peu.
Oui.
Bon, en parlant de choses qui évoquent des souvenirs d'enfance, je vous ai choisi une petite musique qui peut-être va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. En tout cas, moi, elle me rappelle beaucoup de souvenirs quand je l'écoute. C'est Jamiroquai avec Virtual Insanity sur le mix des cultures.
Never give, and everything's a change.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
L'émotion est palpable dans le studio, mais pourtant on ne peut pas se permettre de gâcher du temps parce qu'il est déjà 17h57 et 30 secondes, chers amis. Je propose à notre ami, à notre invité Mélanie, de nous présenter rapidement le club de lecture dont on parlait pendant cette super musique.
Oui, voilà, donc à partir du 12 octobre à la bibliothèque du Châtelet, donc ce sont des samedis, il va s'ouvrir un club de lecture en direction des ados. Donc si vous lisez un peu, beaucoup, même pas du tout, vous pouvez venir parler de vos lectures, parler de vos coups de cœur, ou même venir juste écouter. Et donc ça peut être des romans, des albums, des BD, du manga, voilà, tout ce qui vous a fait vibrer et que vous avez envie de partager avec d'autres personnes de votre âge. Voilà, on vous attend à la bibliothèque.
Si vous aimez lire de toute façon, quoi que ce soit que vous aimiez lire, si vous aimez l'informatique, si vous aimez la culture en général, allez à la bibliothèque entre deux émissions de Radio HDR, n'hésitez pas. On salue bien sûr tous nos amis autour de cette table, puisque vous ne l'entendez pas, mais il y a bien sûr Marion Cuvelier, que certains connaissent bien, qui est avec nous. On voit bien sûr à la réa l'ami Nico, l'ami Hamon qui est là en stage et qui pourtant est déjà un véritable professionnel de la réalisation. On salue les amis de Principe Actif au 102.4 à Évreux et au 95.9 dans le sud de l'Eure. Je ne vous ferai pas l'affront de me tromper en disant les villes. Je suis désolé, chers amis de Principe Actif, je crois que je n'y arriverai pas. Évidemment, Radio HDR, c'est sur le 99.1. Vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur radiohdr.net. Et puis voilà, il est 17h58 et 55 secondes. On va rendre l'antenne. Salut à tous et à demain.